Donc ce soir, nous avons la joie d'accueillir et d'écouter M. Frédéric Guillot, qui nous a précédé à l'ENS et a fait des études de philosophie. Et donc, vous avez assez vite quitté l'université après, mais la philosophie vous a rappelé à elle et vous avez beaucoup lu et publié au moins deux ouvrages, l'un sur les preuves, la manière d'argumenter rationnellement en faveur de l'existence de Dieu, et un autre sur la vérité du christianisme. Et donc ce soir, vous nous ferez une conférence qui en plus fera un heureux pendant à la conférence d'Olivier Bonassi. Donc, merci beaucoup, monsieur.
Merci, merci beaucoup. Alors effectivement, je voudrais vous dire quelques mots d'abord sur la question de savoir si la science peut prouver l'existence de Dieu, puisque c'est le sujet qui vous a été exposé, je crois, la dernière fois par mon ami Bonassi. Et puis après, je développerai quelques façons un peu différentes de faire intervenir la science dans les arguments en faveur de l'existence de Dieu. Donc, la première chose à dire, à mon avis, c'est que quand la plupart des scientifiques professionnels, ou pas, enfin bon, peu importe, qu'ils soient croyants ou non, entendent proclamer que la science prouve l'existence de Dieu, ils lèvent les yeux au ciel ou ils tapent du poing sur la table. Bon, c'est quand même mon expérience, globalement. Et c'est un peu l'expérience à laquelle on a assisté avec le livre d'Olivier Bonassi. Beaucoup de scientifiques se sont récriés, y compris des scientifiques qui vont à la messe. Et à mon avis, on peut les comprendre. Parce que si on prend le mot « science » en son sens le plus courant, aujourd'hui, il me semble faux que la science puisse prouver l'existence de Dieu. Ce n'est pas une question de fait, hein. À mon avis, c'est une question de droit. C'est-à-dire qu'aussi loin qu'elle aille, la science, c'est-à-dire la science mathématisée, la science galiléenne, la science telle qu'on l'entend depuis pas mal de siècles maintenant, aussi loin qu'elle aille, cette science ne prouvera jamais une chose pareille, parce que ça sort, tout simplement. Ce qu'on appelle la science... ça n'a pas pour objet les premiers principes et les premières causes ultimes de l'être, en général, à la façon de la métaphysique, qui d'ailleurs était définie comme étant la science reine, ou la reine des sciences. Mais le sens du mot science a changé, quand même. Le sens du mot science, pardon. Donc, l'objet de la science, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est la réalité matérielle, considéré sous son seul aspect quantifiable, mesurable. Et donc, en termes simples, je dirais que la science s'occupe du fonctionnement du monde physique, dont elle cherche à établir les lois grâce à la méthode expérimentale et à l'outil mathématique. Bon. Et elle ne s'occupe nullement de statuer sur l'origine ultime de l'univers. Elle peut décrire ses stades primitifs, mais ensuite elle s'arrête. Et elle ne se prononce sur rien d'autre qui soit extérieur à l'univers. Ça n'a même pas de sens d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que l'objet formel de la science, c'est la réalité matérielle mesurable. Donc, il me semble constitutivement impossible... par définition même de son objet, de ses méthodes, que la science physique mathématisée rencontre Dieu sous ses microscopes, dans ses tubes à essai, enfin bref, sur un quelconque cadran. Ça, c'est complètement évident. On est bien d'accord. Et c'est ce qu'ont en tête tous les scientifiques quand ils entendent dire que la science prouve l'existence de Dieu. Ça leur paraît non pas faux, mais plutôt une erreur de catégorie, comme on dit en philosophie. C'est-à-dire, si on disait que la botanique peut démontrer je ne sais quoi sur la géologie, bon, ça n'a pas de rapport. Donc là, je pense qu'il y a effectivement un problème qu'on peut sans doute résoudre. mais un problème de vocabulaire, un problème de conceptualisation de ce qu'on entend par science et de ce qu'on entend par prouver. Bref, je pense que Dieu n'est pas une hypothèse scientifique. Il n'y a pas de système d'équation qui ait comme solution Dieu. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Et d'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique affirme dans son paragraphe 31 que les preuves de l'existence de Dieu, parce qu'il affirme qu'il y en a quand même, hein, le catéchisme de l'Église catholique, ne relèvent pas des preuves que cherchent les sciences naturelles. Bon. Paragraphe 31. Alors, est-ce que donc ça ne veut absolument rien dire que la preuve pour l'existence de Dieu ? Non, je pense qu'il y a quand même un sens en lequel on peut comprendre positivement cette proposition. Il me semble qu'il y a un malentendu sur le rôle de la science dans cette affaire. S'il est exclu que la science en tant que telle puisse s'intéresser à l'existence de Dieu, ni encore moins la prouver, on peut soutenir en revanche, il me semble, que certaines données issues de la science peuvent être utilisées légitimement par la réflexion philosophique pour construire des arguments tendant à accréditer l'existence de Dieu. Donc la nuance est peut-être un peu subtile, mais vous voyez, et je pense que dans le fond, c'est ce que font les auteurs du livre, c'est ce que fait Olivier Bonassi. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on peut, philosophiquement, c'est la philosophie qui mène le jeu, hein, qui tient la barre, pour moi. Et la philosophie peut utiliser des données scientifiques à l'intérieur de raisonnements philosophiques qui font usage de principes philosophiques, comme le principe de causalité, le principe de raison suffisante, qui ne sont pas des principes scientifiques à proprement parler. C'est des principes méta-scientifiques, c'est des principes philosophiques. Alors, on va prendre quelques exemples. Et donc, je pense que la philosophie peut, à bon droit, s'intéresser à des données scientifiques et les utiliser dans des raisons. Bon, on peut prendre une comparaison un peu enfantine, mais enfin, en tout cas simple. Dans un procès, par exemple, un avocat peut utiliser toutes sortes de données techniques, hein, des horaires de train, un test ADN, des données météo, il peut les utiliser dans sa plaidoirie. Ou le procureur, plus sûrement, dans sa plaidoirie aussi, dans son réquisitoire, pour prouver la culpabilité de l'accusé. Bon, bref, on peut aussi essayer de l'innocenter, ce sera l'avocat. Enfin, peu importe, on n'en conclura pas que l'innocence du prévenu est une conclusion de la météorologie, de la génétique ou de la technique ferroviaire. Vous voyez, on ne peut pas aller voir le météorologue et dire « Dis-donc, tu savais que ta science prouve que... » Un tel est innocent, en fait. Il dirait, mais qu'est-ce que tu... Ça ne veut rien dire, qu'est-ce que tu me racontes ? Non, ce qui est vrai, c'est que un procureur ou un avocat peut utiliser, faire servir, si je puis dire, la météorologie à un argument qui est d'essence non météorologique, qui est d'essence judiciaire, en l'occurrence, qui relève du bon sens. C'est ce qu'on utilise le plus souvent dans un tribunal, le bon sens commun. Qui fournit la structure générale, les méta-principes, et puis on fait servir des données scientifiques à une démonstration. Voilà. Donc, la météorologie ne prouve pas l'innocence du coupable, mais elle peut servir à prouver l'innocence du coupable. Bon, c'est quelque chose de très simple que je dis là, hein, mais ça me semble être une confusion qui est quand même existante dans les débats autour de ce genre de proposition un peu... massive sur le fait que la science prouve l'existence de Dieu, ou pas, d'ailleurs. Alors, maintenant, justement, prenons un des exemples développés par le livre d'Olivier, celui qui part qui s'appuie sur l'astrophysique, hein, le fameux Big Bang. Alors, comment le Big Bang pourrait, à lui seul, prouver l'existence de Dieu ? Alors, voilà l'argument que je comprends dans ce qu'on trouve dans les livres qui disent que le Big Bang prouve l'existence de Dieu. Et c'est un argument philosophique qu'il faut reconstituer. Donc, la première proposition, c'est « S'il n'y a pas de Dieu, alors l'univers est éternel. » Donc ça, c'est un acte, c'est une sorte de, d'axiome philosophique, si on peut dire, métaphysique, proprement. Ça n'a rien de scientifique, on va y revenir. La proposition 2, c'est « Or, d'après l'astrophysique, il est très probable que l'univers ne soit pas éternel. » C'est-à-dire qu'il est un début radical, un commencement radical. Conclusion, donc, il est très probable qu'il y ait un Dieu. Bon, le raisonnement est valide, il se tient. Donc ça veut dire que si vous êtes d'accord avec les deux premières propositions, bon, la conclusion s'ensuit. Mais alors, justement, il faut quand même s'intéresser à l'action de savoir si les propositions sont, les premières sont vraies. Donc la proposition numéro 1, là, s'il n'y a pas de Dieu, alors l'univers est éternel. Bon, c'est une proposition, je l'ai dit, philosophique. Aucune science n'a jamais formulé ou formulera jamais une proposition comme ça. La physique ne dit pas ça. C'est pas son... Donc, comme vous voyez, le cadre, hein, il n'est pas fourni par la physique. Mais on peut expliciter cette proposition de la manière suivante. Si on définit l'univers comme la totalité de la réalité spatio-temporelle, et si l'on affirme qu'il n'existe rien d'autre que l'univers, hein, ce qui est la définition même de l'athéisme, il n'existe rien d'autre que l'univers matériel. Donc il n'y a pas de Dieu, quoi. Si on dit ça, eh bien on est contraint d'affirmer, c'est ce qui est sous-entendu hein, par cette proposition, on est contraint d'affirmer que l'univers n'a pas de commencement radical. Autrement dit, qu'il est éternel. Alors pourquoi on serait contraint d'affirmer ça si il n'y a pas de Dieu ? Eh bien parce que si l'univers avait un commencement, il faudrait lui trouver une cause. S'il avait un commencement radical. Pourquoi ? Ben, en vertu du principe selon lequel du néant, rien ne sort. Ce n'est pas un principe très exigeant. Enfin, c'est facile à admettre et c'est difficile à contester. En tout cas avec succès auprès des gens, en général. On peut essayer, mais enfin, disons que, bon, du rien, rien ne sort. C'est d'ailleurs, ironie de la chose, un des principes fondamentaux des premiers matérialistes. C'est de Démocrite, en fait, hein, et Lucrèce, enfin, Lucrèce plutôt en latin. De rien, rien ne sort. Bon. Bah oui, alors donc, si l'univers, dans sa totalité, avait un commencement radical, c'est-à-dire un commencement qui n'est précédé par rien, sera embêté, parce que c'est une sorte de surgissement à partir de rien. Et là, l'athée n'aime pas trop ça, forcément. Enfin, c'est logique. Parce que c'est contraire à ce principe, ex nihilo nihil, que généralement il ratifie. Donc, il est conduit à considérer que l'univers doit être sempiternel. Il ne doit pas avoir de début, précisément, il doit être éternel. Et comme ça, ce fameux problème de surgissement ex nihilo ne se pose pas. Donc tout va bien. Et puis on peut apercevoir au passage que si c'était le cas, s'il y avait vraiment ce commencement radical, on serait obligé de requérir une cause et elle aurait une allure peu engageante pour un athée. Puisque par définition, enfin par implication même, disons, s'il y a une cause à cet univers à cette totalité de toute réalité matérielle, s'il y a une cause à cette totalité de la réalité matérielle, elle ne peut pas faire partie de la réalité matérielle. Sinon, précisément, elle serait dedans. Alors, donc, elle serait dans ce gros machin dont on dit qu'il a un début. Alors, bon, la question se reposerait, et donc, on aurait simplement décalé d'un cran le problème. Je pense qu'effectivement, si la totalité de la réalité matérielle, la totalité de la réalité spatio-temporelle a une cause, cette cause n'est pas spatio-temporelle. Ça ne nous dit pas encore ce qu'elle est, mais disons que vous comprenez bien que pour un athée, ça commence à sentir mauvais, me semble-t-il. Et d'ailleurs, empiriquement, on a pu vérifier que quand le maître et compagnie ont, Friedman et tout ça, ont commencé à se dire qu'il y avait peut-être un début radical, les physiciens athées ont tordu le nez. Ils trouvaient que ça c'était pas une physique très, C'est intéressant. Ah, ils ont résisté concrètement en essayant de trouver des échappatoires, bon, jusqu'à ce que. Et alors, je pense qu'ils avaient une intuition assez fondée. Effectivement, à cause de cette première prémisse, il n'y a pas de Dieu, l'univers est éternel, effectivement. Et ça semble une implication assez convaincante. Alors, puisque précisément, hein, donc, pourquoi je dis que ce n'est pas très engageant, la conclusion, si on se dit qu'il y a... C'est-à-dire, si on admet qu'il y a un début radical, la cause est non spatiale, non temporelle... Bon, alors qu'est-ce qui existe qui est non spatial, non temporel? Les abstractions mathématiques. Et bon, les abstractions mathématiques n'ont pas de pouvoir causal. Alors, qu'est-ce qui reste? On peut toujours dire qu'on ne sait pas, c'est une sorte de X, mais... Bon. Donc, on peut admettre cette première proposition. S'il n'y a pas de Dieu, alors l'univers est éternel. Alors, la deuxième proposition, c'est là que... donc, on fait entrer la science en scène, elle dit, or, d'après l'astrophysique, il est très probable que l'univers ne soit pas éternel. Ben, il est très probable qu'il ait bien un commencement radical. Donc, bon, c'est là qu'on fait intervenir la théorie de la singularité initiale, etc. Alors, ici, on souligne un peu le mot radical, quand je dis commencement radical, hein, donc... on insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un début à l'intérieur de l'espace-temps, évidemment, comme le début de notre existence ou le début de cette conférence, mais du début de l'espace-temps lui-même. Donc le commencement de ça duquel il n'y a, pour la science, plus rien à connaître, puisqu'il n'y a pas d'avant. C'est pas un commencement tout à fait banal, c'est un commencement qui n'est précédé par rien. Enfin, qui n'est pas précédé, je dirais plus exactement. Il ne faudrait pas chosifier le rien, parce qu'après, on est toujours piégé par toutes sortes de jeux de mots, parce qu'on chosifie. Le rien étant un mot, on le finit par croire prendre pour une chose, et puis alors, on s'en sert, on fait surgir des choses de lui. Bon. Disons qu'il n'est pas précédé, ce début. Alors, si de fait la science prouve bien une chose pareille, alors la proposition 2 donc, est vraie, et le raisonnement fonctionne, la conclusion s'ensuit. On peut faire des objections quand même. Mais alors là, bon, donc là, ici je m'arrête pour vous dire, voyez comment, à mon sens, on peut donner un sens... solide, légitime à l'idée que des données scientifiques peuvent servir à construire des arguments en faveur du sens de Dieu. Vous voyez, ça doit s'insérer dans un raisonnement proprement philosophique. C'est sûr que tout seul, la science ne dit rien sur le sujet, et tout scientifique peut être un peu décontenancé par la proposition sur laquelle la science prouve l'existence de Dieu. Alors, bon, il y a des objections. Certains remettront en cause la proposition numéro 1 en essayant de nier le principe ex nihilo nihil, bien sûr. En disant qu'il peut y avoir une exception. C'est-à-dire que globalement, effectivement, il ne surgit pas des choses de rien. Mais... on envisagerait une exception, une seule, mais vraiment massive, pour le début. Alors, les gens qui prônent l'exception, ils ont la charge de la preuve sur le dos, quand même, généralement. Parce que c'est quand même à eux de prouver que telle exception, serait quand même étrange, serait possible. Après, il y a des espèces de subterfuges moins valables qu'une franche exception au principe métaphysique ex nihilo nihil, c'est de dire oui, mais l'univers aurait surgi du vide quantique. Mais là, je pense qu'on joue sur les mots, c'est-à-dire que le vide quantique n'est pas le néant. C'est quelque chose qui a une structure, une façon d'être, enfin bref, c'est quelque chose. Il y a des livres entiers qui ont été produits sur l'univers est né de rien, et en fait à l'intérieur il y a écrit que c'est une fluctuation du vide quantique. Bon, mais en fait, alors non, il n'est pas du tout né de rien, le vide quantique est quelque chose, ce vide quantique il dure, est-ce qu'il peut durer un temps infini? Enfin bon, en fait on n'a pas avancé. Donc là c'est plutôt des jeux de mots. Bon, donc la piste qui consiste en fait à nier la prémisse numéro 1 me semble assez peu prometteuse. Alors en revanche, évidemment, sur la proposition numéro 2, à savoir que l'astrophysique prouve de manière, enfin en tout cas établie, qu'il est très probable que l'univers a un début, là on peut s'en donner à cœur joie pour dire que c'est pas du tout sûr. Et c'est généralement ce qui se passe dans les discussions sur ce genre d'argument. Vous avez... et à très bon droit, beaucoup d'astrophysiciens diront « Oh là là, cette fameuse singularité initiale n'est... » Enfin, on n'a pas la preuve que c'est un commencement radical, comme je le disais juste. C'est-à-dire qu'il y ait bien eu une explosion, etc. On a le fond diffus cosmologique, tout ça, bon, qui sont des éléments très forts, mais le point initial, en fait, il nous est inaccessible, c'est juste une extrapolation de la relativité générale, mais comme on n'a pas la théorie complète, vous savez tout ça peut-être, que je dis des choses connues là, mais pour décrire ce qui se passe vraiment au commencement, il faudrait réussir à combiner la gravitation et la physique quantique, quoi. Donc, comme ça n'est pas fait, et que les tentatives en ce sens iraient plutôt dans le sens conduisant à décrire la fameuse singularité initiale plutôt comme une transition de phase avec une phase précédente, la proposition 2 est tout de même assez fragile, je dirais. En tout cas, c'est très discutable, et là, vous vous enferrez tout de suite dans une espèce de bourbier assez indé... Mais là, pourquoi ? Puisque... ça devient une conversation de physique théorique, et puis rapidement vous pliez les gaules parce que bon, ça marche plus, quoi, puisqu'on sait plus. On dit si c'était vrai, en tout cas mon argument serait bon, mais comme on n'est pas trop sûr, vous dites voilà, je vous propose un argument valide, mais la prémisse 2. Bon, enfin bon, donc si c'était bien, voilà, si c'était vrai, ça marcherait. Bon, là, je blague un peu, mais disons que je n'ai pas une idée personnellement très assurée de l'état de la science sur ce sujet. Enfin, à une époque, j'ai essayé de me faire une idée, et puis, mais bon, ça, précisément, ça bouge un peu. Et puis, on est à des échelles où on ne sait plus très bien de quoi on parle. Enfin, c'est très compliqué, c'est-à-dire que... il y a peut-être des physiciens, là, des astrophysiciens amateurs ou même professionnels. Mais bon... donc je dirais que une chaîne ne valant que ce que vaut son maillon le plus faible, les raisonnements philosophiques qui comportent une prémisse assise sur les sciences, surtout dans les domaines encore en construction bien sûr, souffrent d'une fragilité qui est due au caractère incomplet et révisable des théories. Donc ça ne les rend pas complètement inintéressants. Et puis il y a d'autres données scientifiques, d'une autre nature, qu'on peut utiliser aussi, et peut-être avec plus de solidité. Alors dans le livre d'Olivier, on parle aussi du réglage fin des constantes cosmologiques. Bon. Alors réglage fin, c'est une expression qui... vous voyez à quoi ça fait référence. Enfin, alors l'expression est trompeuse parce qu'elle semble présupposer la réponse. Quand on dit réglage, on dit « Ah bah oui, donc c'est réglé. » Alors, mais regardez, il y a un réglage. Donc, il y a un règleur. Je dis, ah bah oui, d'accord, mais c'est la conclusion est dans les prémices, tu as dit que c'était un réglage, bon, évidemment, ça a été réglé. Bon. Mais en fait, ça ne veut pas dire ça. Réglage fin, ça veut simplement dire que l'existence de la vie, enfin la possibilité même de la chimie, enfin des corps complexes, etc., est suspendue à des valeurs, des constantes, qui sont dans une frange extrêmement étroite. Ça, là, on ne présuppose rien. C'est juste qu'il se trouve que c'est suspendu à ça, et d'une manière assez saisissante, quoi, puisque vous avez une trentaine de valeurs, de conditions initiales ou de constantes qui sont des variables apparemment libres. Enfin bon, il suffit d'en changer une pour que, effectivement, si on modélise la chose, on n'obtienne plus rien. Bon, c'est pas une preuve, l'existence de Dieu, mais c'est un signe assez intéressant, me semble-t-il. Au même sens, si vous voulez, que... Parce que là, on peut faire des... C'est plutôt un raisonnement probabiliste. Si vous tirez 20 fois pile ou face, et que vous avez 100 fois, disons, enfin, ou même 20, ça suffit, et que vous avez que des faces, vous avez 100 faces. Quelqu'un peut vous dire, ah oui, mais chaque série, ce qui est vrai, a la même probabilité, chaque série de 100 tirages pile ou face a la même probabilité que n'importe quelle autre. Donc, t'inquiète pas, c'est normal, tout va bien. Il y a quand même quelque chose de pas normal avec les 100 faces. C'est que la probabilité d'avoir une série uniforme, comme 100 faces, bon, ou 100 piles, ou alors l'une sur deux, comme ça, elle est quasi nulle à côté de la probabilité d'avoir une série quelconque. Donc, si vous avez une explication alternative au hasard, pour expliquer votre série de 100 faces, du genre, il y a deux, allez truquer quoi, il y a deux faces. Vous avez raison de dire, non, tu vas pas me dire, c'est normal, mais c'est truqué. Et la probabilité que ce soit truqué est bien plus forte que ce soit une pièce normale. Alors, c'est ce type de raisonnement, vous voyez, qui est appliqué pour les constantes. Là, on dit, c'est-à-dire, quand quelque chose se passe qui est très improbable et qui a une forme spécifique, disons, susceptible d'avoir été voulu, et qui serait explicable par une hypothèse très simple, bah, l'existence même du phénomène que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire le fameux réglage fin, par exemple, renforce la probabilité de l'hypothèse explicative. Donc, par l'application de la théorie des probabilités à ce genre de cas, on peut montrer, disons, enfin, c'est du bon sens, hein, je crois, mais les philosophes qui font ça, ils utilisent le théorème de Bayes, ils aiment bien montrer que on peut, par la confirmation des hypothèses, établir que certaines caractéristiques de l'univers font monter la probabilité de l'hypothèse Dieu. Bon, ça prouve pas, pour en parler, l'existence de Dieu de manière mathématique, mais enfin, au sens de la preuve mathématique, absolument contraignante, mais par des moyens probabilistes, ça aboutit à montrer que certains aspects de l'univers renforcent la probabilité de l'hypothèse d'une création divine. Bon, et ça, c'est des données scientifiques solides, qui ne sont pas tellement remises en cause. Bon. Alors, c'est un autre exemple. Alors maintenant, je voudrais... Vous avez peut-être des questions là où je continue un peu.
Sur les constantes, est-ce qu'il n'y a pas un biais du survivant? Parce que... Oui. Étant donné que oui, alors, on est vivant,
je suis d'accord.
On pourrait se dire qu'il y a des milliards de milliards d'univers qui ont échoué à être réglés de manière ajustée, et on est dans le seul
voilà,
univers qui
donc,
a survécu.
Si on peut dire, il y a des objections à ça, hein, bien sûr, peut-être là. Donc il y a une objection classique qui est de dire que c'est une illusion, rétrospective, c'est-à-dire que. Comme on est là, il est évident que la probabilité qu'on observe un réglage qui nous est favorable est de 1, puisqu'on est là. Donc, ok. Ça, c'est sûr. Vu qu'on est vivant, là-dessus, il n'y a pas de doute. Maintenant, la probabilité qu'on soit là, en revanche, vous voyez, c'est ça qui est faible. C'est-à-dire que, bien sûr... Étant donné qu'on est là, la probabilité d'observer, d'observer des conditions qui nous sont favorables est de 1. En revanche, la probabilité qu'on soit là, elle n'est pas de 1. D'accord ? Donc, c'est pas parce que ce fameux réglage est nécessaire au fait qu'on puisse le constater qu'il est lui-même probable. Et donc... Il demeure étonnant que nous soyons là pour constater tout ça. Vous voyez ? Il n'est pas étonnant qu'on constate que ça nous est favorable, mais il est étonnant qu'on soit là. Il y a une distinction. Je pense qu'il y a Il y a un petit apologue dans la philosophie analytique sur ce sujet, c'est le gars qui va se faire fusiller. Il est amené par un peloton, il a les yeux bandés, bon voilà, il est condamné à mort, et puis il y a les 20 tireurs, il entend la détonation, puis en fait, il se dit, mais j'ai pas été touché, je suis vivant. Incroyable. Il se dit, bah il y a un complot en ma faveur, quoi. Parce que c'est quand même très improbable que les 20 tireurs ratent. Ça n'arrive jamais. Bon. Et là, vous avez un gars qui est comme vous, puis qui dit, mais non, vu que t'es là, c'est normal que tu constates qu'il n'y a rien de bizarre. Ah oui, vu que t'es là, la probabilité que t'observes qu'ils ont raté, elle est de moins, ça c'est sûr. Mais vous voyez, ça n'empêche pas que c'est bizarre qu'ils soient là. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'ils aient raté. Vous voyez, je pense qu'il y a, il y a un petit truc là. Bon, ça c'est une grosse objection. Après, il y a les multivers, hein, bien sûr. Parce qu'on peut dire, pour réduire notre problème probabiliste, je vais vous donner la parole, on peut multiplier les ressources. Donc c'est la réponse par le multivers qui génère tous les univers possibles, avec toutes les constantes possibles, réglées aléatoirement dans tous les sens. Et puis, bah, comme ça, on se dit, c'est moins étonnant. Bon, c'est pas une très mauvaise objection. Après, la question est... Enfin, elle est même efficace, il me semble. Bon, à condition, évidemment, que le multivers soit une hypothèse un peu solide. Alors ça, bon, après, on peut discuter. Puis moi, je ne peux pas discuter longtemps du multivers. allez-y, pardon.
En fait, moi, dans cet argument, j'ai eu l'argument pareil sur... quand on se dit qu'il est probable que l'univers est un début radical, en fait, c'est la notion même de probabilité dans cette discussion que j'arrive absolument pas à...
Ah oui.
En fait, la notion de probabilité est construite par l'homme, me semble-t-il, pour... canalise, enfin, pour essayer de comprendre le hasard, dont il sait bien que c'est pas un hasard, mais simplement un tel faisceau de cause qu'il ne peut pas le comprendre, et dans le cadre d'une expérience réitérable, enfin, avec des mesures possibles, etc. Et quand on voit la théorie de la mesure, en fait, je l'ai vaguement vu l'année dernière en mathématiques, c'est une sorte de formalisation, mais qui n'a aucun appui dans le réel, d'autre que la confiance dans le fait que ça correspond à ce qu'on a vécu. Et donc, enfin, Quand on dit bah, dans réglage fin, il y a déjà la réponse dans réglage, bah, en fait, dans probabilité, bah, en fait, c'est déjà la réponse parce qu'on suppose déjà le mec qui va se faire fusiller, il a pu se voir avant d'être fusillé. Alors que nous, on ne peut pas se voir avant d'être fusillé, on ne peut pas anticiper ce truc-là. Donc, ça, je n'aime vraiment pas. Donc, on pense que c'est vie probable, parce que ça est, point barre, et c'est ni probable ni improbable.
C'est assez voisin de ce que dit Romain, non, quand même, ce que tu dis.
Romain, c'est un point de vue de supposons qu'il y ait plein d'univers, en gros, il y en a plein qui se sont crachés tout seuls et il y en a seul qui reste. Donc il y a encore une supposition probabiliste. Enfin, si tu veux pas vraiment,
Je pense que l'argument de Romain, c'est de dire tu tires des dés, alors bon, 6, tu opères la série 1, 3, 7, 8, je sais pas quoi. Puis ensuite tu dis, mais c'était quoi la probabilité que j'arrive là-dessus? Puis tu trouves que c'est très faible. En fait, j'ai eu vraiment une chance incroyable.
Oui.
Ça, et donc, c'est ça. À mon avis, c'est ça l'argument de Romain, mais j'ai l'impression que ça ressemble au tien aussi.
Bah, non, parce que ça suppose des possibles différents. La notion de possible, de probabilité, sur des choses qui concernent Dieu, la création, j'arrive pas du tout. Parce que je vois pas de quoi ça parle.
Oui, non, mais là, je vous suis sur ce que vous dites là, sur le fine-tuning. À mon avis, ça... En revanche, quand on dit l'astrophysique montre qu'il est très probable qu'un début, là c'est un sens très
un sens probabilité plutôt aussi,
c'est très mou et vague du mot probable. Je veux dire que la théorie est assez bien corroborée. Bon, donc on dit c'est probable. Vous voyez, mais
ça mérite approbation.
Voilà. Là, je pense pas du tout que ce soit. Mais en revanche, sur là oui, je pense que c'est des objections qui sont sérieuses. Bon, et alors ce que personnellement, je voulais en venir à autre chose, justement, parce que c'est des arguments, vous voyez, bon, qui sont assez difficiles à... On peut les traiter comme des signes, bon, qui vont dans un certain sens, mais ça reste assez fragile, quoi. Bon. Alors, pour en revenir au débat de l'existence de Dieu, et des arguments, et puis des éléments scientifiques qu'on peut y insérer... Je dirais qu'en fait, il y a deux types de raisonnements qui sont à l'œuvre. Alors, des déductions. Bon, alors, ça, on sait ce que c'est qu'une déduction. Hein, c'est un raisonnement qui conclut bien. Donc on dit, s'il pleut, alors la route est mouillée. Or, il pleut, donc la route est mouillée. Bon. Impeccable. Ça, c'est une déduction. Et puis vous avez l'abduction. Alors l'abduction, c'est s'il pleut, alors la route est mouillée. Or, hein, la route est mouillée. Donc, à proprement parler, donc rien du tout. Mais enfin, disons que il est possible qu'il ait plu quand même. Si, même un truc. Et donc, la conversation habituelle sur les arguments sur Dieu ou contre Dieu s'en tient, à mon avis, au niveau de l'abduction. Et donc, vous avez l'abduction athée. Parlons un peu de l'athéisme aussi. Bon, alors. L'abduction athée, elle part de fait, par exemple, bon, c'est des routes mouillées, quoi, qu'on a sous les yeux. Donc, alors, pour l'athéisme, vous avez le fait que la vie humaine est insignifiante matériellement dans l'univers. Elle est vraiment anecdotique, elle est minuscule, elle est, d'un point de vue matériel, c'est assez impressionnant, c'est vrai, se représenter l'immensité qui est irreprésentable, d'ailleurs, de l'univers, rapportée à notre présence, c'est très insignifiant. Ensuite, il y a le fait que, apparemment, nous soyons apparus au cours d'une évolution assez guidée par le hasard. Donc, l'homme est arrivé, il est insignifiant matériellement dans l'univers, il paraît tout à fait anecdotique, et il est apparu au hasard. Ah, par hasard. Disons que si on remontait le film, comme on dit souvent, et qu'on le relance, on n'apparaît pas. Enfin, c'est ce qu'on peut penser d'un point de vue scientifique. Il apparaîtrait d'autres sortes de vivants, admettons, mais peut-être pas nous. Bon. Et puis, troisième route mouillée, le mal, évidemment. Le mal physique, le mal naturel. Je mettrai le mal moral de côté parce que, généralement, le théiste répond très facilement à la question du mal moral par la liberté, en disant « Le mal moral, c'est la méchanceté. Il y a des méchants. Ah oui, mais Dieu a créé des êtres libres. Donc, hop, non, tout va bien. » Mais, les catastrophes, les maladies, etc., c'est le mal qui est difficilement explicable immédiatement par la méchanceté. C'est simplement que c'est mal foutu. Et donc ça, c'est les trois routes mouillées de l'athéisme qui dira, il fera un raisonnement abductif, qui dira, si Dieu n'existait pas, il semblerait bien qu'on devrait assister à quelque chose de ce genre. C'est-à-dire qu'on devrait observer un univers où s'il y a des êtres dans notre genre, ils sont anecdotiques, ils sont arrivés là par hasard et on leur a pas fait un joli petit cocon confortable, mais ils souffrent, etc. C'est mal organisé, quoi. En tout cas, c'est pas apparemment organisé pour eux. Donc on dira, si Dieu n'existe pas, la vie devrait être anecdotique, hasardeuse et soumise au mal. Or, c'est le cas. Donc, il est possible que Dieu n'existe pas. Mais ça ne prouve pas vraiment que Dieu n'existe pas. Il faudrait éliminer les autres hypothèses. C'est ça dans une abduction. Par exemple, si vous dites, s'il pleut, alors la route est mouillée. Or, la route est mouillée. Vous pouvez dire il a pas plu parce qu'en fait il y a un camion de pompier qui est passé qui a mouillé la route ou il y a un appareil d'arrosage. Vous avez des hypothèses alternatives. Donc tant que vous les avez pas toutes éliminées, vous pouvez pas conclure. Donc c'est dans cette situation qu'on se trouve. Donc vous avez l'abduction athée qui part comme ça de fait très frappant, très saillant et qui dans les conversations porte un certain succès à chaque fois. C'est vrai que... Mais vous avez aussi l'abduction théiste. Elle va aussi avoir ses routes mouillées. Donc elle va dire l'univers est intelligible, c'est admirable, c'est pas du tout un chaos. C'est les matheux, les physiciens, ils sont absolument éberlués par l'élégance mathématique des lois de l'univers. Et puis, on peut observer d'autres choses. Bah, certains feront revenir notre début radical, mais enfin, bon, comme il est un peu fragile, je n'en parle plus. Mais on pourra citer le fait qu'il existe des valeurs morales objectives. Il faut défendre cette proposition. Mais admettons qu'on admette que les valeurs morales sont objectives, que ce n'est pas juste des us et coutumes de grands primates qui les ont adoptées comme ça, mais en fait, ça aurait pu être le contraire si on avait... Bon. Si vous dites vraiment qu'il y a un bien et un mal objectif, ah, ça c'est un fait intéressant aussi pour le théiste. Puis vous pouvez les additionner comme ça, il y a l'existence de la conscience. Et là, le théiste, il dira, ah bah, si Dieu existait, il semblerait qu'on doive observer un univers ordonné, intelligible, transparent à l'intelligence, où il existe du bien et du mal, où l'esprit est possible. Or, on observe tout ça, donc, il est bien possible que Dieu existe. Mais, vous voyez, alors, chacun a son abduction, ses faits, mais l'univers semble ambigu. Quand on s'en tient à ce niveau, je pense, de raisonnement, bah, on conclut une sorte de match nul, sur des terrains un peu différents, en plus, donc c'est pas vraiment un match, mais c'est un dialogue... non conclusif. Alors on observe au passage que, j'ai pas fait la liste complète, mais enfin des faits saillants pour l'un et l'autre, mais en fait les athées font beaucoup plus appel à l'émotion et à la morale, enfin les abductions athées, que les abductions théistes qui sont plus froides et rationnelles et traitent de sujets métaphysiques. Les athées font appel plutôt au scandale, quoi, du mal, ou à l'apparente insignifiance de l'humanité dans l'univers. Mais bon, on arrive à une sorte de match nul, et donc l'univers semble ambigu, c'est un peu comme... alors on peut basculer d'un bord à l'autre, vous voyez, en se concentrant. Donc l'univers est un peu comme le vous savez, le canard-lapin, hein, des illusions d'optique. Tantôt, oh, on bascule, hein, on dit, oh, c'est incroyable. C'est magnifiquement ordonné, vous voyez le ciel étoilé, quoi. Donc là, hop, l'abduction théiste met en route. Vous dites, oh, non, c'est sûr. C'est... Et puis, bah, d'autres moments, c'est l'autre, vous voyez le lapin, quoi, enfin, le canard. Vous dites, oh là là, non, c'est vraiment. On n'est rien, ça rime à rien. C'est mal. Et donc, alors ça me fait penser à Pascal, on a l'impression qu'il voyait les choses comme ça. Il dit l'univers est ambigu, il y a tout ce qu'il faut pour croire à celui qui est bien disposé, mais il y a aussi tout ce qu'il faut pour pas croire à celui qui est mal disposé. Il y a des phrases très belles là, je vous avais noté, mais vous pouvez les lire. Donc j'ai l'impression que pour Pascal, il voit l'univers comme ça, c'est-à-dire comme un canard lapin. avec deux abductions possibles, et donc il dit bon, faut pas, ça marche pas, quoi. Bon, alors maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être on peut tenter des déductions sur le sujet. Alors pour transformer ces raisonnements en déductions, il faut des prémices beaucoup plus fortes. C'est-à-dire qu'il faudrait réussir, par exemple, l'athée, il devrait non pas dire si Dieu n'existait pas, on devrait observer ceci, mais il devrait dire si Dieu existe. Il devrait assurer cette proposition, hein. Il devrait dire si Dieu existe, alors l'homme est central dans l'univers, est matériellement non insignifiant et ne doit pas subir le mal physique. Et après, là, il n'a plus qu'à dire or, bah, tout ça est faux, il souffre, il est insignifiant, donc Dieu n'existe pas. Alors là, c'est une déduction. La conclusion s'ensuit. Simplement, il faut assurer la première proposition. Mais comment démontrer que si Dieu existe, alors l'homme ne doit pas être petit, ni subir de mal physique ? C'est difficile, vous voyez. Je ne vois pas comment établir cette proposition. Sans vouloir être trop dur avec l'argument athée, mais là, pour le transformer en déduction, ça me paraît très difficile. On pourra dire, oui, bah, c'est pas très probable, mais bon, je sais pas. Et là, Pascal, d'ailleurs, avait des réponses. Il disait, oui, non, mais attendez, l'insignifiance matérielle est insignifiante. Ce qui compte, c'est justement autre chose. C'est notre à la limite, ça ajoute au caractère formidable de notre présence dans tout ce bazar, c'est que on est tout petit et on comprend cette immense chose inerte. Alors, oui, on peut argumenter, on peut vraiment pilonner la première proposition de la déduction athée, parce que il reste le mal, bien sûr, mais d'autant que, alors je vous dirais qu'il y a une autre, en plus, il y a une autre échappatoire pour le théiste, si on peut dire, c'est que, non, j'y viendrai après, quand j'aurai fait la déduction théiste. Bon, alors, est-ce qu'on peut durcir l'argument théiste, cette fois, pour le transformer en déduction théiste ? Il faudra établir une proposition beaucoup plus dure, là aussi, qui ne serait pas seulement « si Dieu existait, on devrait observer un univers intelligible, avec un début radical, admettons qu'on reprenne cette affaire. Bon. » Mais on devrait établir une proposition beaucoup plus dure qui serait « si Dieu n'existait pas, l'univers ne devrait pas être intelligible, ne devrait pas avoir de commencement, il ne devrait pas exister de valeur morale, etc. » Et alors là, l'argument conclut. Puisqu'après on dit « bah oui, mais justement, il est intelligible, il y a des valeurs, donc Dieu existe. » Bon, là, c'est pas très visuel, donc je sais pas si... On peut durcir la proposition, la prémisse numéro 1, et transformer l'argument théiste en déduction. Mais comment établir que, si le monde est intelligible, alors Dieu existe ? Or, le monde est intelligible, donc Dieu existe. Hein, c'est ça. Oui, dans ce sens-là, c'est plus... on le sent mieux. Justement, ça, je crois que la philosophie peut travailler à ça, à montrer que la première prémisse est vraie. C'est-à-dire que, si le monde est intelligible, alors Dieu existe. C'est à ça qu'elle doit travailler, enfin, à mon avis, en utilisant des données de la science, pour revenir à notre sujet, puisque là, l'intelligibilité de l'univers, c'est son intelligibilité mathématique en particulier, hein, autant parler de ça, enfin, pour ce soir. Et puis on pourrait en établir une autre, par exemple, et là, sans parler de science, qui serait, si l'univers a un commencement radical, on y revient, mais on va y revenir philosophiquement. Si l'univers a un commencement radical, alors Dieu existe. Or, l'univers a un commencement radical, donc Dieu existe. Donc, vous voyez, on pourrait travailler à l'établissement des deux premières propositions, là, enfin, qui sont pour deux raisonnements distincts, mais qui sont deux déductions théistes, qui seraient si le monde est intelligible, alors Dieu existe, et si l'univers a un commencement radical, alors Dieu existe. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut avancer là-dessus ? À mon avis, oui, c'est-à-dire que pour ce qui est de l'intelligibilité, vous voyez, il faudrait repartir des mathématiques. Il y a quelque chose d'étonnant dans les mathématiques, c'est leur applicabilité à la nature. Si on prend les mathématiques, ça, ici, il y a des matheux, donc... c'est la science la plus certaine, c'est pas une science empirique... C'est une science a priori, et c'est une science cumulative. Donc, ce qui a été acquis est acquis pour toujours. C'est pas comme en physique, parfois il y a des révolutions. Je pense que les éléments d'Euclide, ils sont quand même solides. Il y a un nombre infini de nombres premiers, c'est démontré pour toujours. Et depuis très longtemps. Quoi. Donc, simplement, on ne sait pas très bien de quoi elle parle. Vous savez, il y a une phrase de Russell qui est marrante, il dit les mathématiques, c'est la reine des sciences, c'est la science dont on ne sait pas si son objet existe et où on ne sait jamais trop si ce qu'on dit est vrai. Mais c'est la meilleure. Bon, c'est une boutade, mais je veux dire qu'effectivement, on ne sait pas très bien quelle est. C'est la science la plus certaine, mais quel est son objet ? C'est pas évident. Après, on ne sait pas si ce qu'elle dit est vrai, là il exagère un peu, mais disons que. On pourrait dire, on sait que c'est valide, mais peut-être vrai au sens où on dit qu'une proposition est vraie quand on dit le chat est dans le jardin. Bon, c'est vrai parce qu'il y a un chat dans le jardin. Alors, est-ce qu'en mathématiques, il y a une multitude infinie de nombres premiers ? C'est vrai parce qu'il y a une multitude de nombres premiers qui existent, vraiment ? Moins évident. Si, on peut être platonicien. Mais vous voyez, Alors, les maths, mais c'est pour dire que, justement, il y a deux théories majeures sur la nature de l'automatique, les deux théories qui tiennent la corde. Je crois même que le platonisme tient un peu la corde, mais là, peut-être, vous contredirez. Il y en a deux, c'est le platonisme et le formalisme. Donc, le platonisme, bon, c'est la thèse historique, hein, et qui est souvent aimée des mathématiciens professionnels. Il y en a pas mal, donc on peut faire la liste, même vivant. Hein. Alain Cohn, il est ultra-platonicien, il est peut-être pythagoricien, même, je ne sais pas. Mais bon, vous voyez, enfin, Frege, bon, c'est un logicien, mais bon, il est platonicien, Goethe, platonicien, Penrose, qui est mathématicien et physicien, il est super-platonicien, Cohn, il est platonicien. Bon. Et puis vous avez le formalisme, donc le platonisme, c'est la thèse selon laquelle les objets mathématiques existent, comme quasiment les cailloux, quoi, pour le géologue. Simplement, évidemment, on ne les attrape pas, mais ils existent dans la réalité mathématique qui n'est pas spatio-temporelle, qui est une sorte de monde parallèle. Enfin, ça, ça fait un peu temps X, mais je veux dire, il y a de bons arguments, hein, à mon avis. Hein. Bon. Et puis, vous avez le formalisme. Alors ça, c'est l'idée que les mathématiques, c'est plutôt un jeu. Disons que c'est-à-dire qu'on pose des axiomes, puis après on déduit, mais il y a une dimension d'arbitraire, donc il y a une dimension de création dans les mathématiques, c'est un peu comme un jeu, c'est les règles du jeu d'échecs, et on déduit toutes sortes de choses, mais ça ne renvoie à rien. Donc c'est vrai au sens de valide, évidemment, démontrable, enfin les propositions vraies sont vraies au sens de démontrable, mais pas au sens de « elles existent », elles renvoient à quelque chose qui existe. Alors là, vous avez... Hilbert, ou de, bon, qui était le grand formaliste historique. Mais, donc, alors je dis que les platonistes tiennent la corde parce que depuis les années 20-30, on a plutôt tendance à considérer que le formalisme, le programme formaliste visant à montrer que les mathématiques sont simplement, enfin pas un jeu, mais enfin disons, oui, un système formel entièrement cohérent et complet, tout ça, bon, bah, ce programme a échoué à cause notamment de Gödel, quoi. Bon, qui était vraiment le chef des platoniciens de l'époque, qui a établi que la vérité ne se réduit pas à la démontrabilité, à la prouvabilité, donc il y aurait bien quelque chose. Bon, alors peut-être vous ne serez pas d'accord. Mais ce n'est pas grave pour mon propos, heureusement. Alors donc... ce que je veux dire, en tout cas, c'est que, quelles que soient nos préférences en matière de théorie fondamentale des mathématiques, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça s'applique à la réalité physique. Donc il y a un excellent article d'un prix Nobel de physique qui s'appelle Eugène Wigner, qui a été prix Nobel, je pense, dans les années 60, pour la théorie des particules, qui s'appelle « La déraisonnable applicabilité des mathématiques ». Il dit, c'est incroyable, des théories, qui ont, enfin des objets mathématiques qui ont été découverts indépendamment de tout souci physique, de toute préoccupation, enfin de tout intérêt pour les réalités physiques, s'avèrent des décennies plus tard fournir l'outil idéal pour des théories physiques. Donc il en fait une liste. Bon. Et. Bon, ça peut commencer même avec les nombres, vous voyez, les nombres complexes, qui viennent quand même de loin, et qui se sont avérés très utiles. Je ne sais pas, les espaces d'Hilbert, les choses comme ça, qui ont servi à la physique quantique, etc. Et Wigner dit que c'est difficile à expliquer, quelle que soit la théorie dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que pour un platonicien, c'est bizarre que... le monde des idéalités mathématiques, bah, il est sans effet, il est sans causalité, il n'influe pas sur le monde physique. Mais alors, dans le cadre du formalisme, c'est encore plus bizarre d'une certaine façon, parce que alors là, c'est carrément des choses qu'on a inventées, avec un fort souci esthétique parfois, enfin formel en tout cas. Il y a un souci formel chez les mathématiciens. Et puis, on découvre que ça marche en physique. Alors c'est encore plus bizarre presque que dans le platonisme. Dans le platonisme, il y a vaguement l'idée que c'est quand même, ça fait partie du réel, même l'autre réel mathématique. Bon, c'est quand même quelque chose de réel. Et Wigner dit, ben, c'est une sorte de il se met à parler de miracles, alors que lui-même n'a pas d'agenda religieux. Hein, c'est pas, mais il dit, on est obligé de dire que c'est une forme de coïncidence curieuse. Bon, il a évacué tout de suite, hein, j'ai oublié de le dire, mais une théorie mathématique qui serait l'empirisme, hein, qui dirait que les maths viennent du physique. Il dit ça va avec les dénombrements, l'arpentage, mais rapidement, les mathématiques, ça s'occupe d'objets dont on n'a pas eu l'idée en regardant quoi que ce soit de physique. Hein. Les nombres complexes, les ensembles, transfinis, et tout ça, ça... Et pourtant, le platonicien dira... Bon, je sais pas ce que dira le formaliste, mais le platonicien dira, mais ça résiste, quoi, ça existe, c'est réel. Hein. Ce qui est réel, c'est ce qui résiste. C'est un critère de la réalité, quoi. Enfin, propriété essentielle de la réalité, c'est que ça résiste. Et une fois que vous avez démontré qu'il y a un nombre infini de nombres premiers, vous vous dites, bah, on peut bien détruire mon cerveau, celui de tous les mathématiciens du monde, de tous les humains, les planètes, ça reste vrai. Il y a un nombre infini de nombres premiers. Je l'ai découvert. Bon, alors tout ça pour vous dire que ce qui paraît curieux, c'est que le monde physique soit homomorphe, enfin, aux mathématiques. Vu que l'empirisme est faux et que les deux autres théories ne donnent pas tellement... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a deux trucs qui semblent un peu homologues ou, pour expliquer l'homologie, bah, on peut dire que A a causé B ou B a causé A en le formant, quoi. Ou alors que B n'est que A, on le réduit, ou A n'est que B. Ou alors que A et B ont été causés par un même troisième, en fait. Qui expliquerait qu'il soit homologue. Mais bon, là, je pense qu'on peut... Enfin, il est clair que... Comment dirais-je? C'est pas le monde platonicien des mathématiques qui a créé de lui-même le monde physique, puisque c'est un monde inerte qui n'a pas de pouvoir causal, apparemment. Enfin, conceptuellement, on voit pas comment. Bon, on a exclu, évidemment, que ce soit le monde physique qui ait créé le monde des mathématiques. Ça paraît un peu absurde. Après, que l'un ne soit que l'autre, alors là, c'est peut-être une piste. Alors, par exemple, Alain Cohn, il dit « Ah non, non, mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Le monde physique n'est qu'une province des maths, du monde des mathématiques. » Ça, il l'a écrit. Il y a un livre de dialogue avec Lichnerowitz et puis un troisième, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc Lichnerowitz, c'est formaliste et Cohn, platonicien. Donc il parle de Gödel, il martèle que le réel, la réalité mathématique existe. Et quant à la question de la correspondance avec le physique, qui est fabuleuse, parce que Cohn dit, mais les maths ont un pouvoir génératif, c'est un treuil ontologique. Ça, c'est une expression que j'aime bien de Klein. C'est pas seulement qu'on fait des approximations, enfin, que les maths permettent d'écrire des équations qui ressemblent à la courbe qu'on a observée, quoi. C'est enfin, au nuage de points, bon. Il dit que c'est un pouvoir générateur de découverte, par des raisonnements, par des analogies formelles, mathématiques, on a découvert des nouvelles sortes de particules. Bon, donc Cohn est fasciné par ça, et lui, il dit donc, j'ai une solution simple, en fait, le monde physique n'est que le monde mathématique. Donc c'est pour ça que je dis les pythagoriciens. C'est plus que platonicien, parce que Platon dit il y a deux mondes. Et il dit, bah, entre les deux, il y a le démiurge qui regarde les formes, et puis qui ensuite forme le monde. Et pour Pythagore, il n'existe que les nombres. Et donc, alors, Cohn est comme ça, et donc ça permet d'apporter une solution, en un sens, mais à mon avis, ça ne marche pas, parce que... Enfin, ça me paraît difficilement soutenable, parce que justement, le monde physique, on ne peut pas expliquer comment, à partir de l'infini des possibles qui existent dans le monde mathématique, parce que le monde mathématique est infiniment plus vaste que le monde physique, évidemment. Le monde physique, c'est un choix, d'une certaine façon, sur l'infinité des possibles Mais comment le monde mathématique, immatériel, abstrait, s'autocontracte pour en une province de lui-même, en un monde physique qui a fait des choix, enfin qui résulte de choix, ça, enfin vous voyez, c'est de la mythologie, on retombe dans des trucs. Il me semble que le problème n'est pas résolu par le pythagorisme radical pour lequel il opte pour expliquer la correspondance. Et alors évidemment, vous me voyez venir, la seule solution, c'est qu'il y ait un... C'est qu'en fait, c'est une forme de platonisme, mais c'est de dire qu'en fait, le monde des mathématiques ne flotte pas tout seul. C'est-à-dire les idéalités mathématiques, les abstractions mathématiques, c'est des idées, et les idées ne tiennent que dans un esprit, un entendement. Un entendement infini, nécessaire, comme sont les mathématiques. Et qui aurait créé le monde physique, qui procède à un choix, enfin qui résulte d'un choix parmi l'infinité des mondes possibles mathématiques. Et il se trouve que la science est née, la science moderne est née de ce que précisément on croyait que c'était comme ça. C'est-à-dire que c'est parce que Galilée et compagnie avaient l'idée que le monde était créé par le logos qu'ils partaient avec confiance à la recherche des lois mathématiques de l'univers. En ce sens, il y a une... Je pense que ça, c'est quelque chose dont on parle peu, mais il y a une précondition métaphysique et en un sens religieuse, bon, au sens large, à l'existence et au développement de la science physique mathématisée. C'est le théisme chrétien. C'est pas la seule condition, mais je pense que c'est une condition de possibilité. Et à cette époque, on s'étonnait pas que le monde soit si bien ordonné, que les mathématiques s'appliquent, mais précisément parce qu'on tenait cette thèse d'explication de l'intelligibilité de l'univers. Et il me semble que, à bien y réfléchir, c'est la meilleure explication. Sinon, on peut lire les dialogues de philosophes ou mathématiciens sur ce sujet. Il y a vraiment des choses intéressantes là-dessus, sur cette énigme. Alors, je ne vous l'ai peut-être pas bien fait sentir parce que je ne suis pas assez versé dans ces choses, mais il y a quelque chose de surprenant à l'extraordinaire puissance des mathématiques dans le monde physique.
Frédéric, je suis désolé,
ah oui, pardon.
Que l'heure avance.
Ah oui.
Je me dis,
ah oui, 22
heures. Moi je vous écouterai tous quand pendant des heures. Est-ce que il y a peut-être encore un espace de questions? Je suis désolé parce que là vous avez plein de choses à nous dire.
Ouais, non, mais...
Moi j'aurais plein de choses à dire, mais je vois que l'heure avance.
Je vous laisse parler.
Peut-être on vous donne 5 minutes. 2-3 minutes de questions, ça va? Et après, parce qu'il ne faut pas qu'on se couche trop tard. Alors, on n'a pas eu toute la fin, parce que là, on...
En fait, ce que je voulais dire, simplement, c'est que... Bon,
en une phrase de conclusion,
oui. Oui, je dirais qu'on peut, En tout cas, il y a du travail pour les jeunes philosophes à essayer d'établir des prémices assez solides pour construire des déductions théistes, vous voyez? Parce que je ne crois pas qu'il y ait de déduction athée possible.
Mais... Ça c'est l'argument alors qu'on appelle, que je me trompe pas parce que
Cosmologie.
Il y a le physico-théologique,
oui,
ça, bon, c'est sur l'ordre, ça c'est ça, et l'autre truc que t'as pas fait c'est le commencement de l'univers
là,
qui résonnerait
voulais...
sur la nécessité et la contingence, c'est
alors,
ça je pense
pas tout à fait,
je
précise juste et disons qu'il y a en fait je voulais parler que de choses qui ont un rapport vague ou en tout cas avec la science ou avec ce qu'elle essaye de mon deuxième point c'était de montrer qu'il y a une thèse qui est bien défendue aujourd'hui par les métaphysiciens, c'est le finitisme causal. C'est banal, hein, mais c'est l'idée que une réalité existante ne peut pas avoir une histoire causale infinie.
Okay.
Il y a plein d'arguments assez amusants en ce sens, qui renouvelle complètement le problème des régressions à l'infini classiques qu'on connaît dans, oui, dans Saint Thomas, Aristote, tout ça. Et il y a de nouveaux arguments assez marrants, avec des paradoxes, qui, de fait, alors c'est des réductions à l'absurde, c'est-à-dire qu'on dit, le schéma général, c'est de dire, il y a une première prémisse, c'est que s'il y a un passé infini, il y a une histoire causale infinie. Ça, c'est facile à admettre. Le temps, c'est le nombre du mouvement. Enfin, c'est un peu épiphénoménal sur le mouvement causal. Donc, bon, si, pour qu'il y ait un temps infini, il faut qu'il y ait une histoire causale infinie. Bon. Et après, on dit, s'il y a une histoire causale infinie, alors telle situation à décrire est possible. Or, donc c'est une réduction à l'absurde, or, cette situation est impossible. Donc, il ne peut pas y avoir d'histoire causale infinie. Alors, c'est des trucs du genre le gong éternel qui rend sourd. Par exemple, vous avez un gars qui tape. Si un passé infini est possible, dans un monde possible, évidemment, dans le monde physique, peut-être pas, mais. Donc, un seul coup de gong rend sourd le gars qui tape sur le gong. Et une fois qu'il est sourd, il est sourd. Bon. Et s'il ne l'était pas, il le devient instantanément. Et puis, donc, vous dites, si un passé infini est impossible, vous pouvez disposer une infinité de gars qui tapent sur le gong. Dans un passé infini, jusqu'à maintenant. Et là, on dit, on examine les oreilles du moine bouddhiste qui tape sur le gong. Et donc, question, est-ce qu'il est sourd à l'instant T, admettons ? Donc, vous pouvez démontrer assez facilement qu'il est forcément sourd. Parce que s'il n'avait pas été un T-1, il aurait tapé, il serait sourd maintenant. Bon. Mais après, donc vous dites, il est au moins sourd depuis le. Et après, vous dites, oui, mais quel coup de gong l'a rendu sourd ? Et vous pouvez démontrer immédiatement qu'aucun coup de gong ne l'a rendu sourd. Puisque pour tout coup de gong, etc., ça ne peut pas être le précédent, ni. Bon, et ainsi de suite. Alors, par récurrence, il est. Et donc, aucun coup de gong n'a rendu sourd le moine, et pourtant, il est nécessairement sourd du fait d'un coup de gong. Et donc, et là, vous dites, si un passé infini est possible, une telle expérience du moine qui tape est possible. Or, cette expérience est impossible. Donc, il est impossible d'avoir. Bon, alors, je vous fais pas toutes les. Après, il y a toutes sortes de variantes.
Les bonbons sont les bons.
Ah oui, voilà.
Voilà. Et alors, tu les sois,
c'est l'heure. Après, j'ai arrêté. Et donc ça, c'est pour durcir l'idée que. Qu'une série causale infinie est impossible et donc il y a un début radical.
Je vous conseille de lire les deux livres, t'en as peut-être écrit trois maintenant.
Oui, maintenant il y en a un qui s'appelle Et si c'était vrai.
Pour creuser, donc, il y a Catholic Trilodies, il y a les preuves.
Il y a Dieu existe.
Dieu existe, et puis il y a maintenant le petit dernier.
Oui, et si c'était vrai, voilà. C'est sans question.
Celui-là je ne l'ai pas lu, les autres j'ai lu. C'est vraiment de la bonne cam. L'étalage, je vois qu'il est 22h41. Merci Frédéric. Alors, on termine par les complis, mais je sais pas si tu veux rentrer.
Ouais, parce que là c'est déjà assez tard.
Mille merci. Moi je suis resté dans Catholic Scribodune, il y a une histoire de lutin qui est en fait en livre et.